Déchire lourdement sur les deux étages. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous continuons tout. Oui.
Est-ce que quand on parle de catégorie, la dixième catégorie, est-ce que on l'appelle habitus ou avéré? Parce que si on l'appelle habitus par rapport à l'habitus en tant
Oui,
que.
je l'aide aussi. La catégorie habitus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Avéré. Au fond, c'est l'habitus de la tranquillité, c'est l'habitus de l'avoir. Oui, c'est l'habitus de l'avoir. Oui. Oui, du reste, ce n'est pas habitus par rapport à l'habitus. Tu peux comprendre que c'est cette catégorie dernière dans laquelle on fait tout. Et cette catégorie dernière qui est le fourre-tout, vous mettez là ce que représente la transformation qui se fait du fait même qu'on use une chose. On est modifié. C'est du côté de l'avoir, c'est du côté de l'usage.
C'est quand même très différent de
Ah, tout à fait autre chose, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre catégorie. Oui, une autre catégorie. Bon. Alors, entrons dans les prédicats. C'est-à-dire, essayons de comprendre comment l'universel se divise, j'allais dire spontanément, c'est très curieux. C'est un fait, n'est-ce pas? Vous pouvez se demander, et on se demandera après, pourquoi le fait se divise comme ça. Nous constatons le fait. Hein. On constate le fait que l'universel, dont nous avons vu la naissance, n'est-ce pas? Dont nous avons vu comment l'universel est lié au concept, et ne confondons pas concept et universel, et comprenons bien que l'universel est au niveau du concept, et est au niveau du nom, de la parole, du langage. Les deux. Il y a des noms qui impliquent une certaine universalité, et puis des concepts. Alors, nous avons vu la dernière fois que le concept se divise en cinq. Nous avons étudié successivement ces cinq prédicats. Donc, comprenez bien, hein, tout de suite, du reste, il faut bien distinguer prédicable et catégorie, et prédicament. Ça, c'est sûr. Il faut bien distinguer les deux. Donc, nous avons le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre, l'accident. Alors, historiquement, vous savez qu'est-ce qui a donné ça? C'est l'arc de Porphyre. Bon, vous vous rappelez ça, si on vous parle de l'arc de Porphyre, il faut savoir que c'est Porphyre, un néoplatonicien, Porphyre qui a écrit La vie de Proclus. Donc un disciple de Proclus, un néoplatonicien qui de fait a réfléchi sur ce que représentent les prédicats. Ces prédicables existent dans Aristote, ils existent dans Platon. Au fond, dès qu'on parle d'universel, on parle tout de suite de prédicat. Alors quelle différence y a-t-il? Ça c'est une chose, un petit notabene qui est intéressant à voir. La différence entre le prédicable et le prédicament. Les prédicaments, c'est ce qu'on appelle les catégories. Les catégories, vous le savez, puisqu'ils sont 10, hein, on dit qu'il y a 5 prédicats. C'est déjà une première différence. Facile à retenir. Il y a 10 prédicaments, 10 catégories et 5 prédicats. Alors, les catégories, la substance, la qualité, la quantité, et ainsi de suite. Hein. Quelle différence voyez-vous entre le prédicament et le prédicat? Vous m'écriez comme différence. Spontanément, directement, si vous réfléchissez là-dessus. Est-ce que vous pouvez dire que le prédicable est contenu dans le prédicament ou est-ce que le prédicament est contenu dans le prédicat? C'est tout ce qu'il faut faire quand on compare deux termes qui sont assez proches et qu'on confond assez facilement. Alors il faut voir si l'un est inclus dans l'autre. C'est un procédé très simple de comparaison. Alors, le prédicable est inclus dans les prédicaments. Puisque vous dites que les prédicaments, ce sont les 10 genres suprêmes. Ce sont les 10 genres suprêmes. Si c'est les 10 genres suprêmes, donc. Ah, c'est curieux. comme le genre, nous allons le voir, c'est le prédicable fondamental, nous avons là les catégories qui sont les 10 genres suprêmes. Alors, quelle différence y a-t-il? Là, je vous mets un peu là, le point sur lui, pour que vous compreniez bien. Quelle différence voyez-vous entre prédicable et prédicament? Les prédicables sont donc inclus dans les prédicaments. Qu'est-ce qu'ajoute le prédicament au prédicable? Quand vous dites substance, quand vous dites qualité, vous voyez bien que le genre est quelque chose de plus abstrait, puisque le genre n'implique pas nécessairement la substance et la qualité, c'est le genre. Autrement dit, le genre est un être de raison à l'état pur, c'est sa qualité. C'est un être de raison à l'état pur. Tandis qu'au contraire, les prédicaments impliquent quelque chose de plus, impliquent une signification. Le genre n'implique pas une signification, il n'implique qu'une pure fonction. Tandis qu'au contraire, lorsque vous êtes en face des catégories et des prédicaments, vous êtes en face d'une certaine signification. La substance signifie quelque chose. La qualité signifie quelque chose. La quantité signifie quelque chose. Ça signifie les déterminations tout à fait premières de ce qui est. Les déterminations tout à fait premières. Donc les prédicaments expriment des déterminations tout à fait premières de ce qui est. Ça donc a une signification. Les prédicaments impliquent une signification. Tandis qu'au contraire, le genre, c'est purement l'être de raison, purement le conditionnement de ma vie intellectuelle, c'est la pure condition de ma vie intellectuelle. Je connais en le seulement du genre. Et vous êtes obligé de passer par là. Impossible. Même si vous ne les aimez pas, ils vous aiment. Extraordinaire, hein, les prédicables vous aiment. Vous ne pouvez pas penser sans secréter les prédicaments, les prédicats. Tandis que les prédicaments impliquent un contact avec le réel. C'est pas uniquement vous. C'est pas uniquement le conditionnement de votre vie intellectuelle. La substance, la qualité, la quantité, mais ça, c'est quelque chose qui est dans la réalité. Ce sont les déterminations premières, les déterminations irréductibles, les déterminations de la réalité. Et donc, il y a quelque chose d'objectif dans les prédicaments, qui regardent la réalité et ses diverses modalités de la réalité. Tandis que les prédicables n'ont rien d'objectif, au sens strict, où ils sont pure objectivité, en ce sens qu'ils sont le pur conditionnement de la vie d'intelligence. Donc ils sont beaucoup plus abstraits. Oui. Donc bien, voyez bien la différence entre prédicable et prédicament. Et voyez comment le prédicable, lui, exprime simplement les conditionnements de ma vie intellectuelle, et les prédicaments, au contraire, impliquent une signification qui regarde la réalité et qui regarde les déterminations de la réalité, les diverses déterminations de la réalité, les diverses modes de la réalité. Je vous le redemanderai de temps en temps, bon, c'est entré de temps. Ça, ce sont des petites questions, n'est-ce pas, classiques pour les examens. Alors, moi, tout de suite, si quelqu'un a compris ou n'a pas compris, ça paraît bête comme chou. C'est vrai, c'est très bête, prédicable et prédicament. Mais il suffit de l'émotion de l'examen pour qu'on comprenne plus rien. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, à ce moment-là, on répond prédicable et prédicable, on ne voit plus. Mais alors, ce qu'il faut maintenant, c'est ça que je vous demande, c'est de le saisir par rapport au réel. Et de comprendre que le conditionnement de votre vie intellectuelle va impliquer les cinq prédicables. Et donc, ces cinq prédicables, l'étude de ces cinq prédicables vont être l'étude du conditionnement de ma vie intellectuelle. Les cinq manières dont j'appréhende. Les cinq manières dont j'ai un toucher, un contact avec le réel. Je peux toucher le réel de cinq manières différentes. Le même réel. Pas toujours, parce que c'est le même réel n'est pas toujours nécessairement genre, différent spécifique, hein. Mais je peux toucher le réel de cinq manières différentes. Je peux l'appréhender de cinq manières différentes. Oui, au fond, c'est... Prenez la comparaison du filet. J'appelle poisson ce que mon filet prend. C'est la bonne définition que vous pouvez donner. J'appelle poisson. Tout ce que mon filet ne prend pas, ce n'est pas un poisson, ce que mon filet ne prend pas. Et alors, le filet de l'intelligence, c'est le prédicat. L'intelligence saisit le réel en le conditionnant. Forcément, il ne peut pas être autrement. Elle le transforme, elle le digère. Il y a cinq manières de digérer la réalité. Et cinq manières de l'assimiler, parce que c'est l'appréhension. Et nous avons vu que l'appréhension impliquait l'assimilation. Donc les cinq manières pour moi de saisir le réel, et en le saisissant, je me modifie. Je me modifie selon les conditions de ma vie intellectuelle. Alors maintenant, essayons d'entrer. C'est pour ça que c'est au fond très intéressant d'étudier les prédicats. Ça paraît, à première vue, pas du tout intéressant, mais si vous réfléchissez un peu sur ce qu'est votre vie intellectuelle, ce qu'est votre l'intelligence qui appréhende, vous avez donc cinq modalités d'appréhension, cinq modalités de l'abstraction. Vous abstrayez en appréhension, parce que chaque appréhension implique une abstraction. Il y a donc cinq manières d'abstraire. Et vous le faites spontanément, c'est ça qui est très curieux. Vous le faites spontanément. Et vous voudrez regarder dans toutes les langues, et vous verriez la même chose. Là, vous êtes au-delà des langues. Hein. Les prédicaments, c'est déjà un petit peu plus particulier. Il y a déjà un contact avec le réel. Tandis que là, vous êtes vraiment dans le conditionnement à l'état pur de votre vie intellectuelle. Alors, regardons maintenant successivement chacun de ces prédicaments. C'est-à-dire, les prédicaments, nous les laissons, nous y reviendrons peut-être à la fin si on a le temps. Le genre. Alors, pensez tout de suite, dès que vous pensez au genre, hein, le genre le plus facile à penser, c'est anima. Le genre animal. Vous voyez, dès que vous dites genre animal, faisons attention. Déjà en disant le genre, vous prenez un exemple. Hein. Par exemple, animal. Le genre n'est pas lié à l'animal. Il y a d'autres genres, il y a d'autres aspects génériques. Donc c'est une manière générique de connaître le réel. Alors qu'est-ce que c'est que le genre comme être de raison? C'est un universel, puisque c'est un universel, nous l'avons vu la dernière fois, il s'agit de regarder les deux corrélatifs, il s'agit de regarder le fond, le fondement et le sujet, comme toute relation, puisque c'est une relation de raison. Cette relation de raison particulière qui est le genre, je constate en effet qu'il y a des termes qui ont une universalité particulièrement grande. C'est l'universel qui a la plus grande extension, le genre. C'est là où je suis dans un accueil le plus grand qui soit. Je prends tout par le genre. Mais nous verrons qu'il y a des concepts qui sont au-delà du genre. Mais le concept générique, par exemple, le concept générique anima, c'est un concept extraordinairement vaste. Le concept générique vivant est encore plus vaste. Alors vous pouvez dire, ah bien, au-delà du vivant, il y a l'être. Alors est-ce que l'être est un concept générique? Ah, halte-là. L'être n'est pas un concept générique. C'est très curieux. Le vivant est un concept générique, l'animal est un concept générique, et l'être ne l'est pas. L'un ne l'est pas. Le bien ne l'est pas. Pourtant, c'est très, très génial. Donc, c'est une généralité. Le genre implique une universalité qui implique une limite. Donc, c'est une extension. C'est la plus grande extension. Mais cependant, elle est limitée. Puisque certains concepts ont une extension plus grande que le genre, l'être, l'un, le bien, ils ne sont pas génériques. Ça, c'est très, très curieux. Uniquement ça, déjà, ça vous donnerait une matière à méditation pour toute la semaine. Ça, c'est bien. Réfléchissez bien là-dessus. Matière à méditation, à comprendre comment, de fait, l'animal a une extension très grande, le vivant a une extension encore beaucoup plus grande, mais je ne peux pas dire que l'être est une notion générique. Je ne peux pas dire que l'un est une notion générique. Je ne peux pas dire que le bien est une notion générique. Pourquoi? parce que le genre va toujours impliquer dans son extension quelque chose de potentiel. Et là, on dira que le genre est un tout potentiel. C'est ça qui va caractériser le genre. C'est un tout potentiel. Et quand, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une limite. Il y a une limite dans ce que c'est qu'animal. Animal reçoit des quantités d'animaux, mais il y a des choses qui ne sont pas dedans. Le filet animal, pour reprendre l'image, le filet animal vient de recevoir pas tout. Il y a des réalités qui ne sont pas, qui sont en dehors de l'animal. Et pourtant, le genre est quelque chose de très vaste. Alors, au-delà de l'animal, il y aura le vivant, qui est encore un genre plus vaste. Donc il y a une extension encore beaucoup plus grande et une potentialité plus grande. Plus l'extension est grande, plus la potentialité est grande. Plus l'extension est grande, plus la compréhension est maigre. Alors là, nous avons deux aspects qui sont très intéressants, compréhension et extension. L'universel implique toujours ces deux phases. L'extension, vous voyez bien ce que c'est? C'est l'acteur, le plus vaste possible. La compréhension, c'est... Alors, vous voyez, si j'essaie de comprendre, hein, je vois que la compréhension est du côté de la signification. Et l'extension est du côté de la fonction. Je crois qu'on peut dire ça. Et ça, c'est très important à saisir. On peut dire que l'extension, c'est la fonction. Qu'est-ce que c'est que la fonction du genre? C'est l'intelligence qui rassemble une multitude, ou nous démultis, hein, l'un de beaucoup. C'est l'intelligence qui rassemble une multitude. Ça, c'est la fonction propre de l'universel. Et donc, le genre représente la fonction de l'universel dans ce qu'il a de plus universel. Il a la plus grande extension. Et en même temps qu'il a la plus grande extension, il a la plus petite compréhension. Plus le genre s'étend, plus la compréhension diminue. Songez à animal et vivant, tout simplement, là, pour comprendre tout de suite. Animal et vivant, vivant a une extension plus grande, mais la compréhension de vivant est moindre que celle d'animal. Animal exprime quelque chose de plus, une détermination plus particulière. Tandis que vivant, c'est ça. La détermination est moindre. Donc la compréhension est du côté de la signification. Alors il faut tout de suite saisir ça, parce que je crois que c'est ça qui nous permet de comprendre la diversité de ces prédicats. Saisir que l'universel, dans sa fonction d'universel, c'est-à-dire l'un à l'égard du multiple, ce qui recueille la multiplicité, c'est bien le filet, ça recueille la multiplicité. C'est pour ça que l'image du filet est très bonne. C'est exactement ça. C'est l'intelligence qui, en conçoit, essaie de concevoir pour recevoir le plus de choses possibles, en abandonnant évidemment le plus de détails possibles et le plus de déterminations possibles. Mais pour pouvoir recevoir le plus de choses possibles, l'intelligence s'ouvre le plus qu'elle peut. Elle est accueillante. C'est l'intelligence accueillante. Mais quand on est trop accueillant, vous savez bien, ça arrive, hein. Quand on est trop accueillant, on tombe dans un éclectisme absolu. Il n'y a plus aucune compréhension. Très cru. Il n'y a plus aucune détermination. Et c'est vrai, il y a des intelligences extraordinairement accueillantes. Mais tellement accueillantes, il n'y a plus aucune compréhension. Vous prenez l'œcuménisme. Hein? C'est très curieux, c'est très intéressant de voir ça. Vous voulez recevoir le plus possible. Alors il faut évidemment lâcher pas mal de choses. Alors, jusqu'où vous pouvez lâcher? Compréhension, extension. C'est une loi très très profonde de la vie d'intelligence. C'est une loi d'intelligence qui reçoit, qui essaie de comprendre la réalité, recevoir le plus possible, mais alors, plus elle reçoit, plus elle doit abandonner du lest. Et donc, moins elle devient compréhensible. Le concept. Et donc la signification diminue. Alors, réfléchissons sur ce que nous disions. Les deux termes corrélatifs, un multiple. Le genre nous montre l'extension la plus grande de cette fonction. Le fondement, c'est la réalité en tant que connue. Ah, c'est la signification. C'est la compréhension. Vous voyez comment les deux aspects que nous avons vus, l'extension et la compréhension, se rattachent à ces deux aspects de l'universel. Le point de vue de l'universel dans sa fonction de relation et le fondement de cet universel qui implique justement de signifier quelque chose. Extension, compréhension. Ça, il faut avoir saisi une fois dans sa vie ce point de vue de l'extension et de la compréhension au niveau du concept et au niveau de l'universel. Et comprendre comment l'un nous donne le point de vue de la fonction et l'autre point de vue de la signification. Je reprends le problème d'une autre manière, hein, pour que vous le compreniez, parce qu'il faut arriver à saisir ça. C'est évident, c'est un peu abstrait, c'est évident. Forcément, hein, dès que je suis au niveau de l'universel, je suis dans l'abstraction. Ça, je ne peux pas toucher la chose. Hein. L'universel, ça ne se touche pas. Ça se saisit dans une attitude réflexive de l'intelligence. Alors, pensez à un mot universel, animal, vivant. Puis vous réfléchissez sur ces deux aspects. Vous allez voir, tout va se tenir progressivement. Au terme, ce sera lumineux. Au point de départ, c'est évident, c'est un universel fondamental. Le genre, c'est l'universel fondamental. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que le genre universel fondamental se prend ex parte matériel. C'est très joli. Ouais. Le genre se prend ex parte matériel. Donc le genre se prend exparté matérielle, c'est-à-dire il se prend toujours à partir de la réalité la plus fondamentale et la plus matérielle. Quand le concept générique, c'est saisir la chose dans ce qu'elle a de fondamental. Et par le fait même par où elle est communion avec les autres. Et dans ce point de vue de l'universel, il y a le point de vue de l'attribution. J'attribue animal à Médor. Ouais, tiens. Pierre est un animal, Médor est un animal. Là, ils sont en communion. Vous voyez bien le cuménisme. Ils sont en communion. Ils sont en communion ensemble, Médor et Pierre. Les deux animaux. Animal les unit. C'est très important de saisir ça, parce que c'est la loi profonde de l'intelligence. La loi profonde de l'intelligence, elle unit. C'est bien, c'est ce qu'on disait au concile. C'était quand on allait au bar que l'œcuménisme était fait. Vous voyez bien, quand on va au bar, c'est comme dit l'écriture, quand on va à la source, c'est Jacob, ses fils et son bétail. Enfin, il y a la succession qui vient tout le temps, les serviteurs et le bétail qui viennent suite. Enfin, on voit très bien, animal, ça repose sur quelque chose de très fondamental, ex parte matériel. C'est notre corps par où nous sommes animal, c'est notre corps par là nous sommes animal, et nous sommes donc unis ensemble dans ce nom ou dans ce concept animal. Bon, quand vous attribuez animal à Médor ou à Pierre, je prends exprès les deux, hein, pour que vous compreniez tout de suite. Quand j'attribue animal à Médor et à Pierre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dis que Médor implique un vivant tel qu'il est sensible. C'est ça l'animal. Il est sensible. Ce n'est pas n'importe quel vivant, c'est un vivant qui a la connaissance et la sensation. C'est ce qui caractérise l'animal. Quand j'attribue animal à Pierre, je dis exactement la même chose. Pierre, il est un animal et il a la sensibilité. Et c'est dans ce sens-là qu'il est un animal. Quelle est la valeur de cette attribution? Qu'est-ce que j'attribue? Quand j'attribue animal à Pierre et que j'attribue animal à Médor, j'attribue quelque chose d'essentiel. C'est essentiel à Pierre d'être animal. C'est essentiel à Médor d'être animal. J'allais dire que c'est encore plus essentiel à Médor. Mais c'est pourtant le même essentiel. Hein. C'est un essentiel fondamental. Donc, on dira que le genre implique dans son attribution une attribution essentielle quiditative Hein, vous retrouvez l'expression quid ditati, la quid dite, le toti eneinai, n'est-ce pas? Vous dites que c'est une attribution quid ditati, parce qu'elle exprime quelque chose d'essentiel, mais c'est une attribution qui se prend toujours de la partie potentielle de la réalité et qui n'exprime pas toute la réalité. Ça n'exprime qu'une partie. Donc, du côté de la signification, cette attribution, elle est partielle. Et c'est pour ça qu'on dira que le genre est à la fois un tout et une partie. Vous comprenez, il est tout du côté de l'extension. Il est partie du côté de la signification. C'est très curieux, ces choses-là. C'est une loi très profonde de l'intelligence. L'intelligence connaît les choses d'abord de façon générique. Quand les psychologues parlent d'un tout global, qu'est-ce que c'est que le tout global? Comment se fait-il que je connais les choses d'abord par un tout global? C'est parce que je les connais d'abord génériquement. C'est le tout global. Je dis quelqu'un, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelqu'un, c'est quelque chose. C'est une chose, une chose. Une chose, c'est très très générique. Parce que vous mettez beaucoup de choses dans cette chose-là. Non? Et alors c'est très très générique. C'est un avec une amplitude extraordinaire, mais c'est quand même toujours quelque chose. Et donc ça a une certaine détermination, une détermination très fondamentale. Donc le genre, c'est cet universel fondamental qui est à la fois tout et partie, dont l'attribution est quiditative, c'est-à-dire essentielle, c'est ça que ça veut dire, quiditative. L'attribution est essentielle, mais l'attribution se prend toujours de l'aspect fondamental et elle n'exprime pas la réalité telle qu'elle est. Elle n'exprime qu'une partie de la réalité. Qu'un aspect. Il n'y a qu'une partie de la réalité qui est mise en lumière, tout le reste est mis dans l'obscurité. Donc il y a une abstraction très radicale. C'est l'abstraction la plus radicale et la plus fondamentale. Passons maintenant au second. Ils se tiennent, hein, une fois que c'est une espèce de toile d'araignée, vous savez. Une fois qu'on en tire un, on tire tout. Ça qui est très très curieux. C'est très curieux de voir ça. Qu'est-ce que c'est que la différence spécifique? La différence spécifique, c'est un universel qualitatif. Tout à fait inverse du fondamental. C'est qualitatif. Les gens qui aiment la qualité cherchent toujours la différence spécifique. C'est qualitatif. Il y en a deux qui sont qualitatifs. La différence spécifique, elle est propre. C'est pas qualitatif de la même façon, mais tous les deux sont qualitatifs. Tandis que le genre est toujours, au contraire, l'aspect fondamental. Par le point de vue du genre, puisque l'intelligence connaît par l'aspect générique. Que vous le vouliez, vous ne voulez pas, ça c'est instinctif. C'est la partie instinctive de notre vie intellectuelle. Notre vie intellectuelle connaît toujours d'une façon générique. Mais on connaît plus ou moins génériquement. Ça dépend des individus. Il y a des personnes qui connaissent toujours et qui ont un amour et une propension pour le genre. Et puis il y en a au contraire qui ont une propension pour la différence spécifique. Et ça fait des qualités d'intelligence différentes. Le point de vue de la différence spécifique, c'est au contraire la différence spécifique. Prenez l'exemple, hein, pour que vous ayez quelque chose dans la tête. L'exemple de la différence spécifique, c'est rationnel. Il n'y a qu'une différence spécifique que vous connaissez. Il n'y en a qu'une. Alors ça, c'est très simple. Il n'y en a qu'une, rationnelle. Vous ne connaissez aucune autre différence spécifique. Alors vous allez me dire, c'est pas la peine alors de prendre ça, puisqu'il est unique. Oui, mais c'est parce que justement, le philosophe s'intéresse à l'homme. C'est très très curieux, là aussi c'est une chose très curieuse. Toutes les autres réalités, vous n'atteignez jamais la différence spécifique. Vous y tendez, mais vous l'atteignez jamais. Tandis que par rapport à l'homme, oui, vous connaissez la différence spécifique de l'homme qui est rationnelle. C'est pour ça qu'on dira que la définition de l'homme, c'est dire animal rationnel. Mais vous voyez bien que cette définition est une définition logique. C'est intéressant, mais c'est une définition logique, et donc elle ne dit pas grand chose, hein, de la réalité. Mais elle vous dit, c'est quand même intéressant, ça vous permet de faire un fichier matière. Voilà ce que permet un fichier matière, vous mettez les choses, non? Rationnel. Quand vous dites rationnel, Cette pierre est un animal raisonnable, rationnel, raisonnable. Vous dites raisonnable si vous êtes rigolo. Raisonnable, c'est la différence spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par ce mot raisonnable? Je veux distinguer le genre animal de l'animal tout court qui n'est pas rationnel. Donc, vous divisez le genre, c'est-à-dire vous l'actuez. Première relation de la différence spécifique. La différence spécifique regarde le genre. Et elle actue le genre. Elle détermine le genre. Ce tout potentiel qui est le genre est actué par la différence spécifique. Ce tout potentiel du genre qui a une extension extrêmement grande, vous l'actuez par la différence spécifique. L'intelligence, quand elle connaît, elle cherche toujours à préciser et à différencier. Quand vous différenciez, vous pouvez, par le fait même, isoler cette réalité que vous connaissez de toutes les autres. Vous voyez les deux procédés de la vie de l'intelligence. C'est ça qui est intéressant à voir. Le procédé d'accueil, vous voulez rejoindre le plus de choses possible. Et le procédé de la différence spécifique, vous essayez au contraire de séparer. Quand vous voulez connaître une chose, n'importe quoi, vous voulez connaître quelque chose, vous essayez de voir comment cette réalité est parente à toute une autre quantité de réalité. Vous regardez le côté acte, c'est l'accueil de l'intelligence, c'est de voir comment cette réalité est semblable à une quantité d'autres choses. Donc vous regardez l'aspect générique. Et vous, en même temps, vous essayez de comprendre comment cette réalité se distingue de toutes les autres réalités. C'est la différence spécifique. La différence spécifique, c'est saisir comment une réalité est distincte de toutes les autres. Comment elle est commune avec toutes les autres, sa parenté avec toutes les autres, et en même temps, sa distinction. Et tout le temps, vous faites ça. Vous n'avez qu'à essayer de comprendre. Quand vous voulez chercher quelque chose et que vous voulez connaître une chose, il y a toujours ces deux procédés. Le procédé par où? Regardez la similitude, la distinction. Par une chose se distingue d'une autre. Alors, la différence spécifique, c'est saisir la distinction de la réalité par rapport aux autres. Une distinction. Donc, la qualité, ça distingue toujours. Hein, c'est propre de la qualité. La qualité distingue. La qualité sépare. Tout ce qui distingue sépare. C'est bien évident. Mais c'est une distinction qui n'est pas n'importe laquelle, la différence spécifique. C'est une distinction qui regarde la quiddité de la chose. C'est pour ça qu'on dira que c'est une distinction quidditative. Quand vous dites « l'homme est un animal raisonnable », « raisonnable » regarde ce qu'il y a d'essentiel à l'homme. Donc regarde cette quiddité. C'est donc une différence qui regarde la quiddité. Alors, si je veux pousser plus loin, la différence spécifique à la différence du genre, elle a une très grande compréhension et très peu d'extension. C'est juste inverse. Juste inverse. Il y a une très grande compréhension. La différence spécifique me permet de saisir ce qu'il y a de tout à fait particulier dans cette réalité. Et donc, au point de vue de la signification, la différence spécifique saisit cette réalité dans ce cas-là de tout à fait particulier, de tout à fait original, si vous voulez. Donc, du côté de la compréhension, c'est là où la... Du côté de la compréhension, c'est là où, de fait, la compréhension est la plus grande. Donc, la différence spécifique est sensibilisée au problème de la compréhension et de la signification. Alors là, je peux signifier une chose par la différence spécifique. Et du côté de l'extension, c'est au contraire quelque chose de très sévère. Parce que je précise exactement ce que c'est que cette réalité. Donc c'est juste inverse. Vous avez là les deux procédés les plus opposés de la vie de l'intelligence. l'intelligence accueillante, l'intelligence qui distingue. Ça, c'est très net. Hein. Les gens qui ont un souci de préciser trop sont pas précisément accueillants. Hein. Mais non, on n'a rien compris du tout. Vous voyez, ils vous renvoient promener. Parce que de fait, ils ont une intelligence extrêmement précise. Tandis que des gens qui n'ont pas une intelligence très précise, alors c'est très très accueillant. Seul inconvénient, c'est quand vous êtes dedans, vous êtes avec n'importe qui. Vous dites, tiens, je ne croyais pas que j'étais à côté de l'âne et du bœuf. C'était pas animal. Vous êtes réunis avec n'importe qui. Animal, c'est très vrai, vous êtes très accueillant, espèce d'animal, jour soir. Tandis qu'au contraire, l'indifférence spécifique, rationnelle. Tout ce qui n'est pas rationnel, je le rejette. Différence spécifique. Oui. C'est l'intelligence qui fait ça, c'est l'intelligence qui saisit les réalités comme ça, et qui est sensibilisée différemment. L'indifférence spécifique, elle se prend ex parte formée. Dira saint Thomas. Ça c'est propre à saint Thomas. Hein. Ex parte formé. Ex parte matériel, ex parte formé. Alors, vous avez les deux aspects où l'intelligence essaie de saisir ex parte formé. Hein. Ne disons pas que c'est la matière. On pourrait analogiquement, raisonnement analogique, faisons attention, hein. Je vous le dis exprès avant de voir ce que c'est que l'analogie. Hein. Raisonnement analogique, on pourrait dire que dans la vie de l'intelligence, le genre joue le rôle de la matière dans le monde physique. Et l'indifférence spécifique joue dans la vie de l'intelligence le rôle de la forme dans le monde physique. Ça, c'est une très belle analogie. Et c'est une analogie qui est importante, parce qu'on voit très bien comment notre intelligence, qui reçoit toutes les réalités dans le monde physique, notre intelligence est dépendante de ce monde physique. Et donc, il est normal de retrouver dans le devenir de l'intelligence ce qu'on retrouve dans le devenir physique. Un aspect matériel et un aspect formel. Le genre et la différence spécifique. Mon intelligence progresse toujours en étant accueillante. Et mon intelligence a besoin de se fixer par la différence spécifique. Alors, vous découvrez le dynamisme de l'intelligence. Hein, le dynamisme fondamental et premier de l'intelligence. Une intelligence qui ne serait que précision, uniquement précision, uniquement la différence spécifique, ne progresserait pas. Une intelligence qui ne serait que générique et qui ne serait qu'accueillante, au bout d'un certain temps, serait fourre-tout. Elle ne verrait plus rien du tout, elle confondrait tout, parce que l'aspect générique confond, hein, ex parte matériel, l'aspect potentiel. Tandis qu'au contraire, l'aspect de la différence spécifique saisit avec le plus d'acuité possible ce qui distingue une réalité d'une autre. Donc vous voyez là, en regardant le genre et la différence spécifique, vous êtes toujours au niveau de l'universel. Hein. C'est difficile, hein. On sait. Vous voyez comment là, nous saisissons, comment l'intelligence, quand elle veut saisir quelque chose, elle le saisit radicalement, c'est une pince, hein, pensez à la pince. Elle le saisit radicalement, elle se met le plus bas possible pour accueillir. Et en même temps, elle détermine. Et elle détermine par la différence spécifique. Et la différence spécifique vient déterminer le genre. Troisième prédicable. Hein. Vous voyez la toile d'araignée, j'espère que ça se... Vous tirez sur l'un, d'où vient ? C'est très curieux, ça, c'est ça. Parce qu'au fond, on ne regarde jamais ça. Et quand vous connaissez quelque chose, quand vous lisez, quand vous parlez, les prédicables sont toujours là, présents, vous savez. Faites une petite analyse logique de votre langage, vous verrez qu'il y a toujours le genre, la différence spécifique, l'espèce. L'espèce, c'est le fruit de l'alliance du genre et de la différence spécifique. Vous savez, l'espèce, elle est aussi très rare, hein. Au fond, l'espèce, elle n'existe que pour l'homme. C'est ça, quand on parle de l'espèce en disant l'évolution des espèces, voyez, on fait une erreur complète. C'est très curieux, hein? Parce que l'espèce est un terme logique. Et la logique n'évolue pas. L'espèce, il n'y en a qu'une espèce. Hein? Il n'y en a qu'une, logiquement parlant. L'homme. C'est l'homme. Donc quand vous dites animal, c'est le genre, quand vous dites raisonnable, c'est la différence spécifique, quand vous dites l'homme, c'est l'espèce.
Vous allez me dire, mais il y a de tant de quantités d'autres espèces. Quand vous parlez des mammifères, ce n'est pas une espèce, non. Ce n'est pas une espèce au sens rigoureux. C'est une classification que vous donnez au niveau de l'espèce, parce que l'espèce, c'est le fruit de la différence spécifique qui vient déterminer le genre. Le genre vient actuer, je veux dire, la différence spécifique vient actuer le genre, et en actuant le genre, il y a l'espèce. L'espèce, c'est le fruit des deux. Alors, ça c'est facile à comprendre, hein, je crois. C'est exactement le lien entre la matière et la forme. La matière et la forme donnent une réalité déterminée. Oui, vous avez l'analogie, le parallélisme à faire. Eh bien, l'homme, c'est justement cette espèce particulière qui implique le genre et la différence spécifique. L'espèce, toujours au niveau de la relation. L'espèce a la même extension que la différence spécifique. L'espèce a la même extension, forcément, puisque l'espèce implique la différence spécifique. Donc elle a la même extension. Est-ce que l'espèce a la même signification que la différence spécifique?
Là, je vous pose le problème.
Réfléchissez entre raisonnable et homme. Est-ce que homme a la même compréhension que raisonnable?
Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Pour voir si vous avez pigé un petit peu.
Qu'est-ce que vous diriez si vous posez la colle? La même compréhension. Attention. Oui, mais est-ce que espèce n'implique pas le genre? Vous voyez, l'espèce implique le genre, puisque c'est le fruit des deux. L'espèce implique le genre. Homme. Homme implique animal. Vous voyez? Homme implique animal.
C'est évident. L'homme est un animal.
Tandis que vous ne pouvez pas dire rationnel implique animal.
C'est la différence.
Vous voyez? Donc, il y a une compréhension plus grande de l'espèce que de la différence spécifique. Tandis qu'il y a la même extension. C'est curieux, ces choses-là. On touche quelque chose qui est la vie de l'intelligence. Hein. Faut pas l'oublier, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et votre intelligence, sans le savoir, pense comme ça. C'est ça qu'il faut essayer de découvrir. Ça, nous touchons là quelque chose qui est absolument dehors de idéaliste ou pas idéaliste. C'est avant ça. L'intelligence, elle ment. Parce que l'intelligence, elle ment. Elle assimile. Et dès que l'intelligence assimile, elle assimile de cette manière-là. Elle ne peut pas assimiler autrement. Elle assimile par le genre, elle assimile par la différence spécifique, elle assimile par l'espèce. Et quand vous regardez votre langage, vous voyez qu'en effet, il y a des termes génériques, il y a des termes qui sont des différences spécifiques, très rares, parce que je vous dis que pour l'homme, ça ne fait rien. Il existe, parce que dans le langage, il y a homme, c'est évident. Dans mon langage, je parle de homme, et donc il y a l'espèce et la différence spécifique. Alors maintenant, il reste le propre et l'accident.
Ça va être l'heure.
Alors, on va voir le propre et l'accident, s'il doit pas. Et puis, on va faire la petite synthèse après.